Bonjour à tous, Laure Alessia Calderon du podcast Penser à voix haute. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Karine Chapon, qui me fait la joie d'avoir accepté cette invitation pour nous partager son parcours, un parcours de vie à travers la maladie. Et sa volonté de trouver le bon chemin vers la guérison en se tournant vers des soins alternatifs. Bonjour Karine.
Bonjour Laure Alessia, merci de m'accueillir.
Mais c'est avec vraiment grand plaisir. Ça fait nous quelques à peu près 2 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Et j'ai pensé à toi parce que ton histoire m'a touchée et surtout ta détermination et ta curiosité à aller de l'avant m'a vraiment intriguée et j'avais envie du coup qu'on puisse partager ça avec un plus grand nombre de personnes si tu es d'accord avec ça.
Avec grand plaisir.
Est-ce que tu as envie de te présenter déjà pour les personnes qui nous écoutent, qui te connaissent un petit peu, voilà, pour qu'ils te connaissent un petit peu plus,
oui.
Ou raconter ton parcours.
Alors, je vais essayer de raconter ce parcours. Donc, je suis Karine, j'ai 46 ans. Je suis la maman de 2 grands ados de presque 20 et 18 ans. Je suis mariée dans un couple, dans une famille recomposée. Voilà pour ma vie plus personnelle. Mon parcours était destiné à être un parcours classique. J'étais une élève studieuse, impliquée, qui a suivi le système un peu français. On est bon en classe préparatoire. J'ai fait une école de commerce, une grande école de commerce à Rouen. Et puis donc un parcours un peu tracé, sortie d'école à 21 ans, j'ai commencé à travailler. Je me suis mariée avec mon premier grand amour rencontré à l'école. On a eu nos enfants et voilà, une vie qui semblait tracée dans l'entreprise à 200% comme on nous l'avait enseigné sans doute à l'école. À cette époque-là, et puis donc 26-28 ans, mes 2 enfants, et puis à 30 ans, une intuition profonde que ma vie de couple n'était pas celle que je souhaitais, et donc on a pris la décision de se séparer avec le papa des garçons. Donc à 30 ans, je travaillais comme une folle en entreprise, dans des cabinets de conseil, en système d'information, d'organisation, des grands noms pour travailler 10 heures par jour. Je me retrouvais à la maison avec 2 petits garçons à élever aussi. Donc voilà, une vie à 300 à l'heure. Et puis, à partir de là, mon tout premier pépin de santé, une rupture de ligament, mais pas au ski, un ligament croisé du genou, mais pas au ski. Juste en marchant. Bon, alors voilà, ça a été cette première opération. Reconstruction des ligaments, centre de rééducation pendant 6 mois. J'y allais à fond, puisqu'on m'avait dit 2 mois, donc j'y allais à fond. Et puis le genou, il n'a pas trop suivi ce à fond, mais voilà, se remonter quand même et puis repartir. Repartir dans l'entreprise. Et puis, se sont écoulés 10, 13 ans, 15 ans, 13 ans en fait, où les soucis de santé revenaient. Mais c'était à chaque fois des soucis de santé lourds qui se terminaient par des opérations chirurgicales lourdes. J'ai par exemple été opérée, on m'a enlevé un disque vertébral au niveau des cervicales, donc ce sont des opérations très lourdes. parce que tout d'un coup, mon corps ne répondait plus. Des douleurs terribles apparaissaient dans une zone du corps, jamais au même endroit. Et bah, il fallait aller opérer. Il y avait, voilà, il y avait quelque chose. Et puis, il est fini par venir un peu l'idée que j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas de chance d'avoir autant d'opérations lourdes à mon actif, puisque entre mes 30 ans et mes 43 ans, le diagnostic d'une maladie est tombé. Pendant ces 13 ans d'errance médicale, puisque j'avais quelque chose en endroit, j'allais voir des spécialistes de cette zone du corps qui finissaient par m'opérer. Je finissais par passer 6 mois en convalescence et puis je repartais à fond, je repartais tranquille. Comme si je ne voulais pas entendre ce corps qui quelque part avait sans doute beaucoup de choses à dire, et puis ces douleurs chroniques qui étaient là et qui s'amplifiaient. Et de plus en plus, je m'acharnais. Alors, je montais de plus en plus haut dans ma tête avec un mental très, très fort.
Qu'est-ce que tu te disais, toi ? Ouais.
M'a aidé, mais que de toute façon, il n'y avait pas le choix, il fallait y aller. Il y avait les enfants à nourrir, il y avait les enfants à élever. Et puis, c'était ça la vie, c'était dur. Et il fallait que j'y arrive. Et donc, de plus en plus, avec le recul aujourd'hui, je m'aperçois que je me blindais de plus en plus à... comme si j'avais mis une armure qui devenait de plus en plus épaisse pour lutter contre ces douleurs, ces gènes physiques. Et j'essayais quand même de faire, et je luttais. Jusqu'à 2017, qui a été une année où j'ai eu 4 opérations lourdes pendant l'année. 4 anesthésies générales. On m'a fait une hystérectomie. Derrière, j'ai eu un souci avec de vessie qu'il a fallu aussi aller opérer. Derrière, j'ai été opérée au niveau des lombaires d'une hernie. Et puis, une cheville dont les ligaments avaient rompu aussi. Voilà, mon corps qui totalement disait que c'était plus possible, qui m'empêchait d'avancer physiquement avec des ligaments de cheville qui s'étaient totalement rompus en marchant aussi, toujours en marchant. Voilà.
D'accord.
Mon corps ne voulait plus avancer. Et puis à cette époque-là, quand même, j'ai une rhumatologue qui a commencé à se dire que quand on mettait bout à bout tout ça, ça commençait à faire beaucoup. Parce qu'avant, j'avais eu des médecins. J'ai rencontré beaucoup de médecins, alors j'en ai rencontré des super qui m'ont sauvé la vie, parce qu'on n'opère pas des cervicales comme ça. Donc j'ai rencontré des grands professeurs qui étaient vraiment formidables et très humains. Puis j'ai aussi rencontré d'autres médecins, beaucoup, qui me faisaient comprendre aussi que quand même, c'était pas de chance, mais que pour dire que j'avais aussi mal, c'était pas possible, ça n'existait pas. Et que donc ça devait aussi être beaucoup dans ma tête. Donc pendant toutes ces années, au-delà de lutter pour continuer à vivre, à travailler, comme je croyais, j'avais en tête que ça devait être, j'avais aussi en parallèle beaucoup de médecins qui me faisaient douter, me dire que c'était dans ma tête, que mes douleurs n'existaient pas. Et donc j'ai aussi passé 13 ans très compliqués à quelque part régulièrement me demander si les douleurs que je ressentais étaient vraies ou pas. Et puis cette rhumatologue a eu, enfin, peut-être ce déclic, donc m'a envoyé passer des examens un peu plus complets, une hospitalisation de jour pour aller voir. Et là est apparu dans ce compte-rendu d'hospitalisation de jour un entrefilet qui a changé ma vie, qui était le nom d'une maladie génétique rare dont je n'avais jamais entendu parler, le syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est un défaut du tissu conjonctif. Et puis, donc, de ce petit entrefilet sur ce compte-rendu, je suis allée voir le site d'un professeur qui a beaucoup pris en charge ses patients. Et en lisant, j'ai eu l'impression tout d'un coup que mes yeux s'ouvraient et il y avait décrit toute ma vie. Il y avait décrit que à cause de ce tissu conjonctif un petit peu différent, eh bien, il pouvait y avoir toutes ces douleurs, il pouvait y avoir des atteintes dans toutes ces zones du corps, et tout était décrit. Donc là, après, il y a eu un petit peu une bataille pour arriver à être prise en charge, parce que les maladies génétiques rares, aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis, j'ai eu la chance quand même d'avoir une prise en charge, de commencer à être prise en charge et d'avoir ce diagnostic qui est tombé début 2018. Donc, ça va faire 3 ans. Ça fera 3 ans la semaine prochaine, j'ai la date en tête. Je crois que c'est des dates qu'on n'oublie pas. C'est le 28 janvier 2018.
Ah oui, donc c'est oui, c'est
Ouais,
bientôt notre anniversaire.
ouais. Et voilà, c'est une date. Ce jour-là, vous rentrez, vous êtes face à une équipe de professeurs et en sortant, vous avez un diagnostic qui dit voilà. C'était pas dans sa. Pour moi, ça a été, c'était pas dans ma tête. Il y a quelque chose. Mais bon, ce diagnostic, ça a été aussi finalement, être face à je n'y arrive plus, ma vie va de. Je vais pas pouvoir continuer. À l'époque, j'étais quasi. Le fauteuil roulant est à la maison, je marchais avec une canne, je ne pouvais pas marcher plus de 100 mètres sans souffrir. Enfin, je ressemblais à une petite vieille qui marchait avec une canne Voilà, mon corps ne s'était pas remis des 4 opérations successives et on se demandait si ça allait revenir. Donc ça, c'est comment je suis. Début 2018, j'avais eu la chance aussi d'être prise en charge dans un centre antidouleur enfin. Donc voilà, il y avait au moins début 2018 une reconnaissance. Enfin, on arrêtait de me dire que la douleur était dans ma tête. Et il y avait quelques équipes qui me prenaient en charge avec ce qu'elles pouvaient. Sachant que ce n'est pas une maladie sur laquelle il y a un traitement allopathique que l'on peut guérir, puisque c'est une maladie génétique qui n'est pas encore bien connue. Mais voilà, il y avait des propositions, un plan d'action de refaire énormément de kiné, de bouger quand même. Le message principal, je pense que c'est important pour peut-être ce qu'on va partager ensuite, c'était que je pouvais quasi plus bouger, j'avais mal tout le temps. Mais il fallait bouger quand même, il ne fallait pas lâcher. Et les professeurs qui disaient que si on continuait, si on ne lâchait pas, si on bougeait, si on avançait, si on tenait, ils avaient vu des choses et des gens qui se remettaient à marcher presque normalement et à avoir une vie plus normale. Voilà, donc ça c'est 2018. Et puis en parallèle de ça, alors depuis très longtemps, depuis presque 15 ans aujourd'hui, je n'ai jamais été que dans le système allopathique pur. J'ai toujours été. J'avais un très bon homéopathe, un vieil homéopathe qui me suivait. J'étais intéressée par la naturopathie. J'ai eu la chance de rencontrer une belle naturopathe qui me donnait des conseils. Donc, dès 2010, de façon un peu plus intense, j'ai commencé à être suivie en naturopathie. Mais je me rappelle la première séance de naturopathie où, quelque part, elle me disait elle me parlait de tout en m'expliquant, quelque part, que mon alimentation, mon mode de vie, mon mode de. Je travaille à fond et je m'écoute pas. C'était quelque chose qu'il fallait changer. Et je l'entendais me dire quelque part que tout devait changer dans ma façon d'être. Et à l'époque, j'essayais de suivre un conseil sur la dizaine qu'elle avait pu me donner. Mais quelque part, quand même, j'en suivais un. J'essayais quelque chose.
J'étais quand même ouverte
Voilà.
d'esprit à entendre, tu as pu entendre
J'entendais. C'est aussi
certaines
la
choses.
première fois où j'ai fait une première formation de Reiki, un premier niveau de Reiki, donc m'ouvrir à des choses. Je sentais, j'ai toujours senti qu'il y avait d'autres choses et que quand je m'orientais vers ces autres choses, ça m'aidait. C'était une aide, c'était présent. Et puis en 2017, cette année des 4 opérations où je me sentais sombrer, m'enfoncer. L'hystérectomie a été une opération très douloureuse à dépasser parce que ça touche au féminin et que même si j'avais mes enfants, que je ne voulais plus d'enfants, C'est venu réveiller des blessures du féminin, beaucoup de choses en moi, et ça a été très très dur. J'étais vraiment au plus bas. Et là, me sentant au plus bas, je me suis dit que comme j'étais dans mon lit, j'ai passé l'année, de toute façon je ne pouvais quasi pas sortir du lit à part pour ma toilette, et je ne pouvais plus marcher. J'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose, et je me suis inscrite à une formation de naturopathie en 2017. En me disant, il y a des choses là-dedans. Et si, voilà, je ne sais pas, il y a eu quelque chose de l'ordre. Si tu reçois des choses régulièrement et que tu dois les travailler, que tu dois rendre, il y avait quelque chose, c'était ce qui me tenait, parce que je recevais des choses et il fallait que j'apprenne, et puis je devais faire mes devoirs. Et puis plus je lisais ça, plus je me plongeais dans ces cours, c'est ce qui m'a tenue. C'est ce qui m'a sauvée déjà d'avoir ces cours à suivre, à faire. C'était à distance avec des rassemblements en présentiel après, selon les techniques et les sujets étudiés. Et ça a été, voilà, ça a été un petit peu mon défi, mon challenge. Je m'étais mis ça. Et plus ça arrivait, plus je me nourrissais, plus j'ai commencé à utiliser ce qu'il y avait dans les cours. De toute façon, j'avais que ça à faire. Donc d'abord, ça a été très mental, énergétique. C'était de lire, de me dire que voilà, il y avait peut-être un peu d'alimentation à changer. Donc j'ai changé des choses. J'avais une maladie qui déclenchait beaucoup d'inflammation. Donc j'ai par exemple supprimé le gluten et le lactose en majeure partie de mon alimentation, à moi, pas forcément de toute la famille, mais pour moi.
Ouais.
Et puis c'était, voilà, c'est pas à pas, j'ai fait ça, et puis je voyais que c'était, il y avait peut-être des petits mieux, donc je continuais. J'avais des médicaments très très lourds au niveau douleur. Évidemment, quand on est en douleur chronique, les antidépresseurs vous ont été aussi préconisés parce que les médecins ne savent pas faire autrement. Alors j'ai commencé petit à petit à me tourner vers d'autres choses aussi, vers les plantes, vers la gémothérapie.
Pour soulager les douleurs principalement ?
Soulager les douleurs. J'ai beaucoup essayé de choses pour m'aider à gérer la douleur. J'ai petit à petit appris à gérer la douleur. Et plus j'apprenais à gérer la douleur, à des techniques de respiration. En naturopathie, en fait, l'approche c'est une approche holistique. De se dire, je crois que une des clés que j'ai trouvées en allant d'abord étudier la naturopathie, parce que ça a été ma porte d'entrée, c'était de comprendre qu'en fait, on est un tout. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a les émotions. Et rien ne peut fonctionner sans l'autre. Donc moi, j'étais partie dans le mental, je l'avais tiré, mais j'étais aussi allée dans du burn-out, forcément, parce que quand on tire et qu'on se remet de maladie, et qu'on tire et qu'on se remet de maladie, y a forcément un moment aussi où ça lâche au niveau mental. Et donc là, on passe dans le burn-out. Donc c'est quelque chose aussi que j'ai expérimenté dans ces années, forcément. Et donc, le mental avait besoin d'être soutenu, mais que ce mental, le corps en avait besoin. Et là, moi, mon corps, il avait lâché totalement. Et donc, il fallait aussi que je retourne à ce corps. Et ces émotions aussi, quand on est là-dedans, dans cette douleur chronique, tout le temps mal. On ne peut plus rien faire. On est dépendant de tout. Mes enfants avaient un peu grandi. J'avais la chance d'être mariée, mais je ne faisais plus rien, je ne pouvais plus rien faire. Chez moi, j'étais dans le lit et les enfants, de temps en temps, passaient une tête de maman qui est au lit. Et ça, au niveau émotionnel, c'était aussi catastrophique. Donc voilà, j'ai commencé à travailler avec plein d'outils naturels, plein de techniques naturelles, je les ai essayées. Et puis, j'ai gardé petit à petit, comme des lueurs. Au début, c'était comme des petits temps, il y avait des petits moments où tout d'un coup, je me reconnectais à ma joie de vivre, où j'avais un petit temps de répit et je redécouvrais que je pouvais sortir, marcher une journée, et ce que ça faisait Et puis petit à petit, ça s'est mis en place, ça s'est intégré sans doute en moi. Donc je suis devenue naturopathe, enfin, j'ai fini cette formation. Et puis dans cette formation de naturopathe, il y avait quelque chose qui m'avait particulièrement interpellée, moi, ultra sensible, parce que en fait, je crois que quand on est à de la douleur tout le temps, le cerveau est tellement sensibilisé avec comme ce cri d'alarme incessant du corps qui dit « j'ai mal », ce message, que l'émotionnel devient aussi ultra sensible. De tous les gens que j'ai pu croiser ensuite, qui ont un parcours de douleur chronique, les émotions, enfin, il y a des moments, c'est insupportable. Et on a aussi une hypersensibilité à ces émotions. Et pendant cette formation de Naturo, il y avait un module qui portait sur les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, donc c'est un système qui a été inventé par un médecin homéopathe anglais qui est de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui est décédé en 1932. Donc voilà, qui a été médecin pendant la Première Guerre mondiale et qui a expérimenté des choses. Et puis par sa formation d'immunologiste et d'homéopathe, il a eu l'intuition, à partir de fleurs qu'il trouvait, de sentir que peut-être que ces fleurs avaient des messages et pouvaient apporter une aide à une reconnexion d'émotions, pour en fait équilibrer l'émotion. Il a écrit un seul livre, ce médecin, le docteur Edouard Bach, qui s'appelle « La guérison par les fleurs ». C'est rare, mais il y a qu'un seul livre écrit vraiment par lui. Après, le système a été prolongé. Et il a identifié 38 fleurs et il avait identifié des familles et des émotions que chacune de ces fleurs pouvait venir équilibrer. Et ce système m'avait interpellée.
Qu'est-ce qui t'avait interpellée particulièrement ?
Ce qui m'a interpellée à cette époque, c'est vraiment de me dire, parce que je connaissais aussi les huiles essentielles et autres, qu'on pouvait... un peu comme en homéopathie. Je connaissais très bien l'homéopathie sur des désordres physiques. Je l'utilisais depuis longtemps. Et là, le système des fleurs de Bach correspondait à dire qu'il y avait une possibilité de système d'homéopathie émotionnelle. Et pour avoir été quelqu'un à qui on avait donné beaucoup d'anxiolytiques, d'antidépresseurs à plein d'époques, parce que pour aussi calmer ces soi-disant fausses douleurs qui venaient de ma tête. J'avais senti, j'ai vécu que ce n'était que des camisoles chimiques pour ne plus sentir. Mais en même temps, ces émotions, elles avaient quelque chose à dire. Et cette homéopathie émotionnelle, c'était quelque chose de l'ordre de... J'arrêtais de vouloir faire taire, mais j'acceptais, j'accueillais. Il y avait une possibilité d'accueillir ce qui se présentait, de comprendre que ces messages émotionnels, il y avait une émotion a toujours quelque chose à nous dire. Par sa racine latine, le mot émotion veut dire, vient du mot mouvement, à la même racine latine que le mot mouvement. C'est quelque chose qui sort pour venir dire quelque chose. Et par cette homéopathie émotionnelle, ce que j'ai senti, c'est que je pouvais équilibrer, je pouvais accueillir mes émotions, apprendre à les regarder en face, entendre ce qu'elles avaient à me dire, que je n'étais plus obligée de juste mettre un énorme tapis dessus ou alors de leur donner un gros coup de marteau pour ne plus les entendre. En fait, l'émotion... Sans doute par ce parcours de douleur chronique, c'était comme la douleur. Plus on lutte contre la douleur, quand elle est là, plus on a mal. C'est un... Voilà. Pour avoir beaucoup travaillé en centre antidouleur, avoir été accompagnée avec des techniques d'hypnose et autres, bien sûr, par une psychanalyste. Voilà, quand on commence à étudier comment marche la douleur, plus on va lutter, plus ça va faire mal. Eh bien, l'émotion, en fait, et l'intuition du docteur Bach, quand on lit son livre, c'était que si l'émotion est là, plus on lutte, plus on ne veut pas l'entendre, plus on la nie, plus elle va faire mal, plus elle va déranger, plus elle va s'amplifier et plus elle va venir perturber l'équilibre entier dont je parlais tout à l'heure, cet équilibre, cette harmonie qui a besoin d'être trouvée entre le corps, la partie physique, l'esprit, la partie mentale et cet émotionnel pour pouvoir fonctionner. Et ce médecin, par ce système, avait écrit que pour lui, toute maladie physique, hein, bien réelle, avait forcément pour origine un désalignement émotionnel et un déséquilibre émotionnel. Et donc, quelque part, ça m'a parlé en me disant, et si moi, je retournais à la source de ces émotions, qu'est-ce que je vais bien pouvoir comprendre de tout ce parcours, de tout ce que cette maladie a voulu me dire, a voulu me faire comprendre, de tous ces changements d'état d'esprit. Enfin, c'est un changement total, en fait. Bon. Alors, bien sûr, je me suis aussi retrouvée, je ne l'ai pas dit, mais je suis en invalidité depuis à peu près l'époque du diagnostic, dans les mois qui ont suivi. Donc, j'ai totalement arrêté mon activité professionnelle qui n'était plus possible parce que j'ai tenté, encore une fois, au début, après la dernière opération, ce qui était mi-temps thérapeutique, et ce n'était pas possible. Mon corps ne pouvait pas accepter un rythme du rythme qui est demandé en entreprise aujourd'hui, avec la nécessité de me soigner,
Prendre soin de
d'avoir
toi,
soin de soi, d'avoir des séances de kiné tous les jours, d'avoir des séances d'oxygénothérapie tous les jours. Voilà, ça n'était pas compatible. Donc j'ai fait le choix de tout arrêter, ce qui a évidemment, bah, voilà, donc on se retrouve chez soi, tout d'un coup la vie s'arrête, on sait que voilà, il n'y aura plus rien. De la vie qu'on connaissait d'avant, il y a forcément une vie sociale qui diminue énormément quand vous ne pouvez quasi plus marcher, quand le soir, au-delà de 18 h, vous n'êtes plus en état de faire quoi que ce soit, bah, comme en général la vie sociale, elle est plutôt en fin de journée avec les gens qui travaillent, bah, vous n'en avez plus, et puis plus de travail, donc des grosses coupures. Et j'avais les fleurs de Bac, j'avais la naturo, voilà, et j'ai toujours étudié. Et à un moment donné, je me suis dit, je commençais à ressaisir des moments de mieux-être et de compréhension de ce qui avait pu se passer et comment je pouvais aller mieux. Je me suis dit que ce parcours de douleur chronique, de tout qui s'arrête, de vouloir rester à tout prix dans un monde à 300 à l'heure qui ne respecte plus le cycle. Les cycles du corps, les besoins naturels. Voilà, moi j'avais un corps qui avait été au-delà de ses limites et qui avait dit qu'il ne pouvait plus. Et j'ai eu envie de transmettre toute cette découverte, toute cette connaissance, de me dire que tous les gens que j'avais rencontrés sur mon chemin, qui m'avaient une fois parlé de fleurs de Bac, de naturopathie, d'autres choses, finalement, ça avait été des petites lumières sur ce parcours, puisque sans eux, je crois que j'aurais lâché. Parce que de toute façon, si je m'étais contentée de prendre des antidépresseurs et de rester dans mon lit et d'attendre, bah, je me serais enfoncée encore plus et je serais dans le fauteuil roulant aujourd'hui. Donc
Ah,
voilà, je suis.
tu oui, vas-y, termine.
Je
Vas-y,
pensais que tout ça, c'était. J'avais besoin de le passer, de le transmettre, et que c'est ce qui m'avait aidé à rester debout et à petit à petit, pas à pas, retrouver une certaine guérison. Donc la maladie est là, mais aujourd'hui la douleur est là. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de douleur, j'ai encore quelques traitements, bien sûr, que j'ai diminué au maximum parce que tout ce que j'ai pu faire pas à pas, et je le faisais en vraiment en coopération et suivie par le centre antidouleur. Dès que je sentais que j'avais suffisamment de stabilité émotionnelle, physique, que j'avais fait un pas, on allait voir comment on pouvait diminuer ces médicaments sur la douleur qui ne sont que des béquilles, mais dès que je pouvais, je diminuais. Donc là, je suis encore dans un parcours où je diminue encore un des médicaments. Alors, ça peut être tous les 6 mois et je diminue pas de beaucoup, mais je diminue encore parce que j'ai appris à gérer mes émotions, à les accueillir, à gérer mon corps, à accueillir les moments où mon corps m'envoie des signaux de douleur. Peut-être pour me dire que j'en ai trop fait, je suis allée trop loin. Donc j'ai appris cette écoute fine et donc j'ai créé une association qui me permet, qui m'a permis 2 choses. Elle m'a permis de me dire que mon parcours de guérison et mon parcours de maladie avant la guérison, il serait pas inutile et que j'allais, comme les autres m'avaient transmis, transmettre aussi. D'une certaine façon, permettre à d'autres de rencontrer des outils qui, moi, ont été essentiels sur ce parcours. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y avait le côté « je ne sers plus à rien ». Quand on est en invalidité, alors que j'avais fait une école, il faut travailler.
Bien sûr.
Je ne plus servir à la société.
Ah oui.
Et donc, au-delà de ça, cette association, les consultations et les accompagnements que je mène pour l'association, en fin d'année, j'ai la joie de reverser les gains de l'association. Alors cette année, j'ai choisi une association, Cède in France, qui s'occupe de notre maladie et qui soutient les malades. J'ai choisi les Restaurants du Cœur, j'ai choisi Médecins sans frontières. Voilà,
excellent.
Le nom de l'association. Et là, j'ai aujourd'hui, voilà, c'est comme si je contribuais. Je contribue à ma façon, depuis mon chez-moi. Non, je ne sors quand même pas complètement aisément tous les jours.
Qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui? T'en es où plutôt physiquement? Alors, tu as encore de la douleur, tu dis tu réduis. Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire il y a encore quelques...
Aujourd'hui, je marche. Enfin, aujourd'hui, on ne voit plus que j'ai mal. Enfin, à part certains jours, mais ma canne est posée. Les cannes sont posées et je ne les ai pas utilisées depuis plus d'un an. Le fauteuil est dans un placard et voilà. Mm-hmm. Sauf une, je sais pas, je me casse 2 jambes ou j'en aurais sans doute besoin. Il y a a priori.
On n'espère pas quand même. Ça commence. Voilà, je pense que ça a été suffisant.
C'est juste un accident, un besoin ponctuel, mais voilà. Il y a plus je ne suis plus en train de me dégrader. Je marche totalement comme avant. Je peux marcher je peux faire des kilomètres. Alors, en faisant attention toujours, mais je fais beaucoup de yoga, de yin yoga, qui est un yoga particulier qui travaille beaucoup sur le tissu conjonctif. Et qui est très doux. Alors c'est pas, il y a peu de mouvements, mais on tient les postures longtemps. Et pour moi, ça a été aussi une révélation qui est venue pour moi en fait remplacer tout ce qui était kiné, parce qu'il s'est trouvé évidemment qu'avec le confinement l'année dernière, tous mes soins se sont arrêtés du jour au lendemain.
Bien sûr.
Et donc j'ai aussi augmenté certaines pratique que je n'avais pas forcément avant. Par exemple, le yoga, ben, comme j'avais le temps, je m'y suis mis. Et en fait, je me suis aperçue que, voilà, que pour moi, ça convenait et que ça venait faire le travail en fait, de remobiliser, de redonner de la mobilité aux articulations et de leur redonner un peu de force, parce qu'en fait, c'est une maladie où on a les articulations hyper laxes et où... Voilà, il y a eu une époque quand je marchais très mal, je me subluxais en marchant et donc où je pouvais me réveiller le matin, je m'étais subluxé une hanche et c'était plus en place.
Quoi, en dormant? En dormant, ça pouvait arriver?
Oui, simplement en dormant. D'ailleurs, j'ai ce qu'on appelle des vêtements compressifs et j'ai pris l'habitude de dormir avec. Enfin voilà, on a des choses pour nous aider à protéger ça. Mais en même temps, plus ça se subluxe, moins on marche, et moins on marche, plus ça se subluxe. Donc voilà, il y avait dans cette maladie, il y a beaucoup ces cercles vicieux ou vertueux. De quand ça va pas, c'est très très dur de faire. Mais je comprends mieux le discours des professeurs qui étaient essayez de faire quand même, ne lâchez pas. Bon, après, il se trouvait que j'avais aussi fait beaucoup de centres de rééducation la première fois pour mon genou. Donc, j'avais cette volonté de. Je savais qu'il ne fallait pas lâcher et que c'était en faisant, même quand c'était dur. Il m'est arrivé de faire même que 10 minutes de vélo dans le garage. Mais voilà, c'était quand je faisais 10 minutes, c'était 10 minutes de gagner dans ce mouvement aussi.
Ok, super. Waouh, voilà, ça demande beaucoup de courage.
Oui, mais voilà, c'est aussi
important. Non, c'est très très clair et on voit bien par quoi tu es, toutes ces étapes par lesquelles tu es passée et que tu aujourd'hui tu es là et toute cette évolution que tu as vécue, c'est quand même incroyable.
Il y a vraiment eu de temps, il y a eu le temps où tout s'est arrêté et où la douleur envahissait tout et où je ne vivais aussi qu'avec en tête ce que je ne pouvais plus faire. J'avais été plongeuse, j'étais plongeuse niveau 2, donc j'ai plongé dans pas mal d'océans et de mer et je descendais profond, enfin voilà, j'ai toujours aussi, j'étais quelqu'un de plutôt sportif. Pas dans la compétition, mais j'ai toujours fait beaucoup de choses. Et donc, au début, en 2017, je n'avais en tête que ce que je ne pouvais plus faire, que je ne pourrais plus jamais faire. Et ma tête tournait autour de ça pour revenir sur les émotions. Et là, les fleurs ont été...
Et c'était quoi les émotions qui te traversaient à ce moment-là quand tu réfléchissais à tout ce que tu ne pouvais plus faire ?
Quand on est face à ça, Dr Bach parle de nuit noire de l'âme. C'est vraiment ça. C'est une impression de vide, de rien, d'inutilité et que ça ne sert plus à rien. Je me suis vue dire que je préférerais, pas si c'était pour ça, je ne voulais pas continuer à vivre. C'est des pensées que j'ai eues à cette époque-là, à me demander, mais à quoi bon ? Puis bon, j'avais les enfants, j'avais mon mari au moment le plus bas, donc bien sûr, ça vous tient, mais c'est quand même des pensées qui traversent. Mais on se dit, mais ça ne va pas être possible d'être dépendant à 43 ans. On se dit que c'est une charge et que c'est juste insupportable. Donc j'étais face à ça, et puis aujourd'hui, pour faire part finalement de cette différence. Aujourd'hui, à nouveau, un univers où chaque jour, j'ai envie, je me connecte à la nature, je vais voir là, tiens, je tourne la tête et j'aperçois un rayon de soleil, et voilà, alors qu'on n'en a pas beaucoup en région parisienne.
Non, moi, je ne le vois pas, tu vois.
Là, moi, j'en ai un, c'est cette capacité à saisir l'instant, à me réjouir de tout, à être bien. Bien sûr qu'il y a des choses que je ne fais plus, que je ne ferai plus, que je ferai autrement, mais j'ai comme un univers de tous les possibles qui s'est réouvert. J'ai comme une vie différente, mais qui s'est réouvert.
C'est comme si des portes s'étaient fermées et que d'autres s'étaient ouvertes.
Exactement. Des portes se sont fermées, définitivement pour certaines, mais d'autres se sont ouvertes. Et c'est un peu quand on est dans cette période où il n'y a plus rien, les gens autour de vous, c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, mais il y a d'autres choses possibles. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Et puis aujourd'hui, avec Internet, on peut se connecter à plein de choses, on peut s'intéresser à plein de choses. Mais dans ce moment de nuit noire de l'âme, on n'arrive plus à sentir, en fait, cette énergie vitale, ce feu en nous, la flamme, elle était presque éteinte. Et on ne sent plus qu'on va pouvoir retrouver du plaisir. Et c'est là où, pour moi, les fleurs de Bach ont été la chose qui m'a permis de traverser ça.
Alors concrètement, comment tu as utilisé les fleurs de Bac pour
Alors, les fleurs
remonter
de
quoi,
Bac,
émotionnellement?
j'ai fait une deuxième formation en fait, parce que j'ai découvert enfin, une formation spécialisée sur les fleurs de Bac, parce que je sentais que mon module, je n'avais pas été assez loin. Et cette formation qui se passe en trois niveaux, qui est la formation un petit peu officielle, qui est transmise via le centre Bac à Londres, qui est celui qui maintient en fait et qui est garant un peu de cette méthode du docteur Bach. Donc j'ai fait cette deuxième formation et là on est allé très très en détail à apprendre à utiliser chacune des fleurs, à se connecter au message de chacune des fleurs, à comprendre en fait que chaque émotion, même négative, a quelque chose à nous dire et qu'elle peut être transmutée. En fait, il y a quelque chose. Dans mon parcours physique, il y a eu quelque chose de l'ordre de mourir à quelque chose pour renaître autrement. Et ce que j'appelle la transmutation, c'est saisir que quand on a, par exemple, une grande émotion de peur ou de découragement, envie de vraiment lâcher prise derrière, si on sent l'émotion, c'est parce que derrière, il y a la petite voix encore qui est là pour dire, mais ça pourrait être autrement. Derrière la peur, il y a l'espoir, il y a l'envie, l'envie d'avancer, l'envie de faire. La peur qui vous bloque, c'est aussi derrière l'envie de faire. Bien sûr qu'on ne sait pas où ça mène quand on fait quelque chose de nouveau, mais il y a
Bien sûr.
l'envie. S'il n'y a pas
Bon.
l'envie, il n'y a pas la peur. Le découragement, pour moi, souvent, il parle aussi de cette volonté de vivre. Quand on est prêt à lâcher et qu'on traverse une émotion qui vraiment de. Mais c'est parce qu'il y a encore la vie derrière. Et aller connecter avec la fleur, l'émotion, c'était lui redonner cette homéopathie émotionnelle. Pour moi, elle vient à chaque fois vous redonner les moyens de vous connecter à l'énergie positive qui est derrière, celle qui est la plus atteinte dans le moment. Donc l'émotion, elle vient simplement signaler qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, qui a du mal à faire face. Et apporter les fleurs, pour moi, ça a toujours été le moyen d'équilibrer, de me reconnecter à ce qui se cachait derrière, à ce qui appelait derrière. Comme s'il y avait toujours deux faces. Pour moi, il y a de toute façon, sans être dans la dualité, il y a une dualité qui oppose, mais une dualité qui rassemble. S'il y a un message, une émotion forte qui fait mal, c'est parce qu'elle vient vous dire quelque chose. Quand de la colère surgit, colère, cette émotion qui parfois nous envahit, fait qu'on n'est plus maître de soi, on va s'énerver. Qu'est-ce que vient nous dire la colère? Elle vient peut-être nous dire qu'au moment là où elle surgit, c'est parce que on a dépassé des limites, on ne s'est pas suffisamment respecté. On a dépassé, on n'a pas suffisamment préservé, pris soin de soi, ou on empiète sur notre territoire. Il y a un message comme ça avec la colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que je n'ai peut-être pas assez respecté mes besoins. D'accord. Donc en fait, si je suis en colère, c'est parce que j'ai un besoin non respecté. Qui a envie de parler, qui a envie de qu'on lui donne de la place. Voilà, à chaque fois, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on joue avec les fleurs. Donc moi, dans la pratique qui m'a été enseignée, c'est qu'on par un entretien avec le consultant, on entend, on écoute, on lui fait mettre des mots sur les émotions. Et puis je fais moi des flacons où je mélange sept fleurs qui correspondent aux émotions du moment et où après un flacon qui peut au moins durer un mois et qu'on utilise un petit peu au quotidien. Pour tous ceux qui connaissent l'homéopathie, comme on prendrait de l'arnica dans le moment où on a un petit peu mal. Et petit à petit, il y a un apaisement. Les émotions ne disparaissent pas, Mais je crois qu'on se donne le droit de les écouter, de les entendre et d'entendre aussi toutes ces zones qui crient, qui ont mal, qui ont quelque chose à nous dire de l'ordre de sois plus toi-même, ose dire qui tu es, ose parler, pose tes limites quand tu es dans une situation où tu en fais trop pour les autres et où tu ne prends plus soin de toi. Voilà, c'est toutes ces nuances-là qu'elles nous permettent, auxquelles elles nous permettent d'accéder. Moi, depuis 2018, alors au départ, j'avais des flacons constamment. Aujourd'hui, je n'ai pas des flacons constamment, mais ce matin, pour donner le dernier exemple, j'ai senti que la semaine avait été un petit peu lourde pour moi. Voilà, c'était en tant que maman d'un adolescent pour lequel la scolarité n'est pas facile au quotidien, surtout dans la période
Surtout en
actuelle
ce moment, ouais.
où les cours distanciels et ils sont à nouveau à la maison et puis etc. Et je sentais que ça secouait un peu, que j'étais pas totalement alignée. Quelque chose aujourd'hui de mes émotions, là, il y avait quelque chose qui était plus aligné, que ça secouait. Et donc, cet après-midi, j'aurai mon tapis où j'irai me déposer physiquement. Mais ce matin, je me suis préparé un flacon où j'ai un petit peu identifié les émotions qui, là, étaient venues me traverser. Et voilà, et donc ce flacon va pour moi m'aider là à passer les semaines à venir. Et voilà, et je sais que ça, c'est une forme d'alignement émotionnel que je retrouve à chaque fois grâce aux fleurs de Bac.
J'ai une expérience enfin, très positive avec les fleurs de Bac. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude d'utiliser, malgré le fait que je te connaisse. Comme quoi, tu vois, hein, c'est encore une fois des cheminements, des croisements de route. Des apprentissages. Et en allant faire mes courses il y a 2 mois dans le magasin bio d'à côté, d'un coup, je remarque l'étagère des fleurs de Bac. Donc, ces flacons tout préparés qui ne sont certainement pas la même chose que quand on vient te voir et que tu le fais vraiment sur mesure. Mais bon, je suis tombée dessus. Pourtant, je la connaissais, je savais que c'était là. Hein, mais voilà, je n'avais jamais vraiment essayé. Et je me disais, bon, est-ce que ça marche? Bon, je ne sais pas. Et ce jour-là, je me suis un petit peu arrêtée, puis j'ai plus lu le descriptif de l'effet de chaque flacon avec les noms des fleurs. Et sans vraiment chercher rien de particulier. Et puis, mon œil qui a été attiré par une fleur, alors je ne sais plus son nom, qui libère des peurs identifiées, des peurs connues. Et
Alors,
d'un coup,
l'angoisse.
je crois que c'est ça, effectivement. C'est une fleur jaune, il me semble.
Ouais, elle est
Voilà.
toute jaune, Mimulus.
Ouais, et ben voilà. Et je vois ça, je vois le descriptif et je pense tout de suite à mon petit garçon de 5 ans qui fait des rêves, qui fait des cauchemars nocturnes, qui a du mal à s'endormir ou qui se réveille en pleine nuit et toutes les nuits depuis pas mal de temps, depuis plusieurs semaines. Et je me dis, bah tiens, allez, je vais prendre, je suis motivée, on va voir ce que ça peut donner. Et je rentre à la maison avec et puis je commence à le donner aux 2 garçons, comme j'en ai 2. Allez hop, parce que il y en a toujours un qui se réveille ou qui réveille l'autre. On va uniformiser, puis ils aiment bien prendre des petites choses comme ça. Ils aiment bien. Donc j'appelais ça la petite formule, la petite potion magique. Alors je leur donnais leurs petites gouttes plusieurs fois dans la journée jusqu'au soir. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai du mal à voir parfois, les effets d'une formule, de quelque chose. Et là, j'ai été bluffée parce que dès le deuxième jour, la deuxième nuit, waouh, il n'y a plus personne qui vient dans notre pays la nuit. J'ai continué pendant 2 semaines, 3 semaines. Et pendant tout ce temps-là, et encore quelques semaines après, ça a un petit peu repris quand j'ai arrêté quelques temps plus tard, mais ça se rééquilibre. Et bien, un sommeil, le grand qui a du mal à s'endormir, il s'endormait plus rapidement, le petit, il ne se réveillait pas la nuit. J'étais bluffée, tout simplement.
C'est très très amusant ce que tu racontes parce qu'effectivement, les enfants. Ce que j'aime aussi dans les fleurs de Bac, je ne l'ai pas dit, mais par rapport à beaucoup de choses, ou des techniques qu'on apprend en naturo, par exemple l'aroma. Il y a, en aromathérapie, avec les huiles essentielles, il faut être très précautionneux, il faut vraiment connaître, parce qu'il y a des principes chimiques actifs forts. Les fleurs de Bac n'ont aucune contre-indication avec aucune pathologie, aucun autre médicament, on est tranquille, donc ça peut être sans aucun souci aussi donné aux
D'accord.
enfants. Et les enfants, et je vais te raconter après une petite anecdote de la maison sur
Ouais.
comment les fleurs de Bac sont entrées dans l'univers de la maison au-delà de moi. Les enfants sont ultra sensibles et il y a cette magie que moi j'ai vécue cellulairement et que j'essaie de transmettre, mais les enfants, il y a un côté, on leur dit rien et ça marche. Et la petite anecdote, c'est que donc moi j'utilisais les fleurs de Bac, et puis bon, j'ai un mari, deux grands garçons, donc tout ça étant assez masculin, assez toxique, assez bon, maman, ces
Tout à
trucs là.
fait.
Et il se trouvait qu'on a pris à peu près au même moment, là, au moment de mon diagnostic, une petite chatte qui avait été abandonnée déjà deux fois, qui était dans une famille d'accueil, donc qu'on a accueillie, qu'on a pris chez nous, là, qui est devenue la reine de la maison, Gaïa. Et elle avait comme habitude, en fait, dès que, enfin, elle était très, très, très peureuse. Et puis, elle a, ayant été sans doute abandonnée, dès qu'en fait, on quittait la maison, qu'on la laissait, même si quelqu'un la nourrissait, il y avait un petit pipi à côté. Donc ça devenait la chose un peu embêtante, contrariante, parce qu'à chaque fois, il fallait nettoyer. Et un beau jour, je sais pas pourquoi, je l'avais dans mes cours, je me dis, bon, les fleurs de Bac, le chat. Donc, j'analyse un petit peu ce côté, bah, ces traumatismes, elle a été abandonnée, la peur de si on la quitte, etc. Donc, je fais comme je ferai un petit peu, enfin, non, plutôt
C'est
toi comme tu l'as fait, mais de
excellent. Oui,
dire,
c'est excellent que tu fasses le parallèle. C'est génial. Enfin, le
de dire,
pont.
ben voilà, elle a été abandonnée, il y a quelque chose de l'ordre de la répétition qui se joue, un peu, et puis un peu comme tu faisais par rapport t'as fait par rapport à tes fils, ben, ils ont peut-être des peurs là pour s'endormir, donc voilà. Et donc je mets des fleurs de Bac dans la gamelle. Et quand au bout de 3 jours, le pipi qu'il y avait tous les jours, il n'y a plus eu, ben, de ce jour-là, mais je sais que c'est de ce jour-là que les trois se sont tournés, alors par moments, hein. Mais les trois ont accepté et ont
Ta
décrété que
famille,
les fleurs de Bac, ça marchait.
grâce au chat,
Grâce au chat.
c'est
Parce que là, ils
excellent.
se sont dit que ils ont, voilà.
Il n'y avait pas de
Il
mental, il n'y avait pas
n'y avait
essayé
pas
de
la possibilité de se
convaincre.
dire que j'avais dit un truc que voilà. Et
D'accord.
c'était juste, voilà, ce
Ah.
chat qui se calmait et qui avait plus ce besoin de marquer sa panique, sa peur. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça marche aussi sur les. Voilà,
C'est
simplement ces
excellent. Je
petits.
suis ravie que tu donnes cet exemple. Je trouve ça génial. J'aurais peut-être jamais pensé faire ce travail-là avec un animal. Et je trouve ça génial que ça ait fonctionné, quoi. Et en plus que, au-delà du fait que tu n'aies plus à nettoyer le pépi, que ta famille, bien sûr, se soit un peu, bah, peut-être pas convertie, mais en tout cas, elle est sentie qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait vraiment et que ce n'était pas juste maman qui
Oui,
faisait une
voilà.
petite potion.
Et les, au moins mon mari et mon aîné, bon, l'autre aussi, mais l'autre est encore un petit peu en mode rebelle, donc il ne le dira pas. Mais les deux, il est arrivé là depuis 3 ans qu'on me demande des fleurs de Bac. Et aujourd'hui, enfin voilà, pour eux, c'est une évidence que ça fonctionne. Alors, ils savent pas trop comment, ça reste un peu les trucs mystérieux de maman, mais ou de l'épouse, mais enfin voilà. Enfin, il y a une intime conviction. Il y a quelque chose comme ça avec les fleurs. Et je dis toujours aux gens, quand ils le découvrent, hein, je sais que ça marche. Je sais que ça marche parce que ça a marché sur moi. Et j'ai vu plein d'autres personnes sur lesquelles ça marchait. Je ne sais forcément pas comment et si ça marchera sur vous. Et c'est vous qui me le direz. Et ce ressenti-là, voilà, mais j'ai.
Mais est-ce que tu crois que justement c'est important de croire que ça va marcher déjà?
Je pense qu'il n'y a pas forcément
c'est
besoin
pas,
d'y
pas obligé.
croire. Pour moi, non du tout, parce que déjà, le chat, il n'y croyait pas.
Non, c'est vrai.
Et je pense que, pour le coup, mari et fils, ils n'y croyaient pas trop. Enfin, bon, voilà, on n'allait pas me contrarier, je proposais. Mon aîné, c'était le premier chagrin d'amour de sa vie. Voilà, c'était une période, donc là, il n'allait vraiment pas. Donc, voilà. Et quand on voit, ou même des ados qui finissent par revenir en me disant « tu peux me refaire le même », donc là, petite anecdote aussi, on n'est pas sur de l'allopathique, donc ça arrive quelquefois avec des personnes. Souvent, j'accompagne quelques ados et ça peut arriver, une fois qu'ils ont vu que ça marchait, alors l'ado, la façon de faire, c'est, bon, au début, j'y croyais pas trop, bon, ils ont pris, on leur a dit, ils ont pris. Puis vous voyez l'ado revenir qui vous dit « tu peux me le refaire ton truc, tu peux en avoir un deuxième ». Et ce qui est toujours très drôle avec l'ado, c'est que là, vous le regardez, vous lui dites « oui, je peux t'en refaire, mais je ne vais pas te refaire le même forcément. On va parler, puis on va voir ce dont tu as besoin maintenant ». Et là, il y a toujours une grimace chez l'ado de « ah, il faut reparler ».
Bah ouais.
Parce que ça correspond, parce que les fleurs, c'est les émotions du moment.
Ouais.
Il y a quand même quelque chose de l'ordre. C'est pas tant d'y croire que d'avoir aussi, par ce dialogue, réussi à aider la personne à mettre en lumière aussi les bonnes émotions. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que c'est laisser de la place en soi, aller suffisamment profond en soi pour regarder ce qui se passe, s'arrêter pour le comprendre. Donc, c'est tout ça qui fait que... Voilà, c'est tout un process. Mais qui est soutenu par cette énergie des fleurs. Moi, aujourd'hui, je suis profondément convaincue de ces puissances énergétiques, des plantes, des fleurs de Bac et autres. Mais j'ai été mon propre scientifique, finalement. Je n'ai pas d'autres preuves, en tout cas pour moi, que de l'avoir expérimenté et que ça ait marché et que ça marche. Et finalement, après, pour moi, je n'ai pas besoin d'autre chose que de savoir que ça fonctionne pour moi.
Bien sûr. Est-ce que tu as vu quel type de transformation tu as pu voir ou d'allègement, enfin d'autres exemples des personnes que tu accompagnes, des choses qui t'ont marqué en particulier?
Alors, je suis toujours... ce qui me marque toujours beaucoup, c'est je n'ai pas vu, alors dans les personnes qui sont venues, bien sûr quand on vient faire quelque chose, il y a une forme d'être prêt à travailler sur soi, enfin on ne vous force pas à le faire, donc sans doute que les gens ont déjà une ouverture à quelque chose, même s'ils ne savent pas trop quoi, mais... il y a toujours une grande différence entre le premier et le deuxième flacon quand les personnes reviennent et veulent continuer. J'explique souvent ça aussi, comme si le premier flacon, c'était... alors, ce sont toujours les émotions du moment. C'est quelque chose... Il y a souvent un déclencheur, donc vous êtes dans un certain état par rapport à un certain déclencheur. Et puis, on travaille ça. Et la deuxième fois, j'ai toujours l'impression de commencer à voir apparaître un petit peu l'essence de la personne. Je dis toujours, elles vont travailler les fleurs comme sur un oignon où on enlèverait des couches, ou comme avec des petites poupées russes. Au début, il y a des émotions très fortes qui sont là. Puis quand vous avez enlevé cette première couche, peuvent remonter et apparaître des choses qui étaient peut-être plus anciennes, plus profondes,
plus subtiles,
plus, subtiles, plus cachées, plus inconscientes. Et je vois toujours ce mouvement sur quand les gens reviennent, où je sens que petit à petit, la personne est en train de se connecter à quelque chose qui est plus elle. Voilà. comme si les premières émotions étaient celles de la vie, de cette vie qui va vite, etc., qui nous embarque. Et quand on a un petit peu ce temps, quand on a enlevé cette première couche, la personne arrive à se reconnecter à des choses plus profondes, des émotions peut-être plus anciennes aussi. Et souvent, c'est quand on commence à aller sur cette partie-là qu'il y a aussi des belles choses qui se produisent, parce que quand on a une émotion, la colère par exemple, au-delà d'une colère qu'on peut avoir dans la vie, des fois on va peut-être toucher à des colères plus anciennes, à des colères qui remontent à l'enfance, à des colères qui remontent à des situations de vie qui sont restées engrammées dans nos cellules. Il ne faut pas oublier que tout ce qui n'est pas dit, exprimé, conscientisé, tout ce qui est dans cet inconscient, ça s'engramme dans les cellules. Enfin, je reviens toujours à cette vision holistique, mais et quand ça s'engramme petit à petit, c'est comme ça qu'après, au bout du bout, on va à la maladie. J'ai vu réémerger des colères. J'ai en tête une personne qui était venue en me disant peut-être un problème, on peut regarder mon poids, etc., en naturaux, en plantes. Je lui dis, ok, pas de souci. Je lui dis, écoute, ce que je propose toujours en première intention, je veux bien qu'on travaille un petit peu l'émotionnel. Moi, je considère que l'émotionnel, c'est vraiment une clé d'entrée sur notre essence pour se reconnecter à soi. Et on a travaillé avec les fleurs de Bac une fois, deux fois. Et là, est réémergée une colère vraiment forte par rapport à ses parents. Et si on se réfère à la médecine traditionnelle chinoise, la colère, c'est le foie. Mm-hmm. C'est aussi des choses qu'on sait quand on, dans le yoga et autres, quand on travaille sur les méridiens ou qui sont autour du foie, c'est souvent, il peut y avoir des énergies de colère. Et on n'avait pas encore commencé à travailler vraiment en phytothérapie, en gémothérapie avec les bourgeons sur son poids, qu'au bout de la troisième séance, elle m'a dit « Je ne sais pas, mais j'ai rien changé, mais je commence à dégonfler. » Et on n'avait travaillé que sur les émotions.
Magnifique.
Et c'était pas de dire que bon, vous avez des choses à régler. Là, c'était de lui dire, bon alors, comment tu te sens dans ton corps, quel est ton poids, et d'aller voir quelles étaient les émotions qui sortaient autour de sa problématique de poids. Donc j'avais répondu, on regardait son poids, mais on le regardait d'abord d'un point de vue émotionnel. Et elle a accepté de suivre cette voie de d'abord commencer avec les fleurs, qui nous ont permis ensuite d'aller quelque part saisir où c'est qu'il allait falloir intervenir vraiment, peut-être un peu plus avec d'autres techniques. Mais comme si pour moi, les émotions, c'est des grandes messagères, c'est des grandes guides quand on s'y connecte. Pour nous guider vers qu'est-ce qui a besoin d'être rééquilibré en nous.
Quel conseil tu donnerais à une personne qui t'écoute, qui peut-être qui se reconnaît dans ton parcours, qui est à la recherche aussi d'un mieux-être, un mieux-être physique, peut-être aussi suite à une maladie, ou un mieux-être émotionnel? Ce serait quoi ton message?
Alors, la première chose qui m'est venue, c'est de ne pas lâcher. Pas lâcher et croire que certaines choses est dues et qu'un mieux est possible. Je ne dis pas forcément une guérison, mais un mieux. Et essayer. Aller essayer en allant vers ce qui l'attire. Parce que il y a une des 38 fleurs du docteur Bach, qui s'appelle Serrato, et qui est une fleur qui permet d'aller se reconnecter à son intuition profonde. Et voilà, ces personnes-là, je leur dirais, déjà si elles entendent ça, d'écouter ce qui les appelle, de se laisser interpeller et de faire des petits pas, d'aller à la rencontre, qu'il y a toujours quelqu'un qui... Il y aura quelqu'un pour tendre la main et d'essayer les techniques, si des choses les attirent, elles se disent, tiens, ben juste essayer.
Mmh.
Et de se connecter à elles et de sentir. Les deux grands conseils, c'est, ou trois, c'est se connecter à son intuition pour se laisser attirer, essayer. Et puis ressentir. Quand on essaye, je crois profondément que le corps ou le mieux, on va sentir si oui ou non ça nous fait du bien.
Mmh.
Et après, c'est en fait se dire que c'est assez simple. Ça nous fait du bien, on continue. Ou on poursuit, ou on. Ça ne nous convient pas, on arrête et on fait autre chose. Et je crois que ce conseil-là, en fait, il n'est pas valable que pour ce dont je parle là. Il est valable tout le temps.
Mmh.
En fait, au fond de nous, je crois que notre corps sait. J'ai l'intime conviction qu'en nous, il y a quelque chose qui sait si c'est bon ou pas pour nous. Et qu'il faut peut-être juste, mais ce juste, ça peut être le parcours d'une vie. Apprendre à entendre cette voix-là et à lui faire confiance.
Merci pour ce beau conseil. Intuition, essayer et ressentir. Ça semble très juste. Ça sonne très juste. Pour moi, en tout cas. J'espère que pour ceux qui nous écoutent aussi. Est-ce que tu as envie de partager un dernier message aux auditeurs, même si j'ai l'impression que ça faisait presque office de conclusion, ce que tu viens de nous dire. Mais est-ce que tu as autre chose
Je crois que c'est mon message principal. Et croire que c'est possible. Croire que c'est possible aujourd'hui. J'ai appris à profiter de chaque moment qui passe, de chaque bon moment. Et aujourd'hui, je peux dire que je remercie le chemin parcouru. Parce que cette chose de se connecter à son intuition, essayer et ressentir, c'est la meilleure chose qu'elle m'ait appris à faire. Et c'est ce qui me rend bien au quotidien.
Ben, merci beaucoup Karine pour tout ce partage, sur le partage de ton parcours, sur tes difficultés, sur tes recherches, vraiment tu nous as rempli d'espoir. Moi je ressens de l'espoir pour toutes ces personnes, et à certains moments de notre vie on peut être concerné, qui traversons des moments difficiles. Et je trouve que ton message est vraiment plein d'espoir, qu'à partir du moment où on ne lâche pas, ce qui peut être très facile à faire. Aucun jugement, c'est des choses qu'on, je pense, moi je traverse forcément, et beaucoup d'autres personnes aussi, mais rester fort, rester persévérant et y croire. Je crois beaucoup aussi en cette puissance de croire que ça peut marcher pour soi aussi, que c'est pas que pour les autres, que pour nous aussi ça peut avoir de l'effet, et qu'il suffit effectivement. Je trouve que c'est très juste, hein, ces trois étapes d'avoir d'être au contact de cette intuition qui, on sait, qui est pas simple hein, quand on n'a pas l'habitude d'aller consulter cette intuition, d'écouter cette petite voix sage qui est en nous. Et c'est un, comme tu dis, ça peut être le travail d'une vie. Donc, c'est pas forcément simple. Et encore, peut-être de se lancer et les choses se font petit à petit à notre rythme. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir permis de partager ça.
Eh ben, ça nous a fait beaucoup de bien. Pour ceux qui nous écoutent, si vous souhaitez contacter Karine, avoir de ses conseils, qu'elle vous en dise plus, encore plus sur les fleurs de Bac, je laisse ses coordonnées dans les différents endroits adaptés selon les supports sur lesquels vous nous écoutez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview et je te remercie encore Karine pour tout ce temps que tu nous as consacré, ce magnifique partage qui m'a vraiment réjouie.
Merci beaucoup.
À bientôt.